Figures d'hier, pour aujourd'hui et pour demain, une émission présentée par le père Roger Wilhelm.
La face humaine de Dieu. Dans les évangiles, les controverses surgissent dès que Jésus se met à enseigner en Galilée, à Capharnaüm et autour du lac. Sur quoi porte-t-elle? Sur l'autorité surprenante de Jésus qui remet les péchés d'un paralytique? Sur sa fréquentation des publicains et des pécheurs? Sur la non-observance du jeûne par ses disciples, de même que sur leur désinvolture par rapport aux purifications rituelles? Sur le sabbat, dont Jésus s'affirme le maître? Il s'agit donc pas seulement d'observance, mais de l'autorité que Jésus s'arroge, et donc de l'identité de sa personne qui légitime cette autorité. Deux séismes dans l'évangile. Oui, des situations qui étonnent souvent le lecteur. Et voilà, par exemple, deux scènes que l'on peut considérer comme exemplaires, toutes deux dans une synagogue. Les synagogues sont en effet le lieu privilégié de l'enseignement de Jésus, comme le souligne Matthieu. Il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues. L'homme à la main sèche, dans Marc 3, 1, 6, c'est le jour du sabbat, où Jésus se rend normalement à la synagogue pour le culte, et on l'observe pour voir s'il va guérir cet homme. Marc souligne que c'est déjà avec l'intention de l'accuser. Luc précise que c'est la main droite de l'homme qui est paralysé, ce qui a fait dire à Paul Beauchamp, l'exégète, que si l'homme était droitier, chaque jour devait être sabbat pour lui. Alors Jésus ne lui propose pas de revenir le lendemain, comme un chef de synagogue le demandera en une autre occasion dont le scénario est semblable. Une femme courbée en deux depuis 18 ans qui se trouve là et ne demande rien. Il y a 6 jours ouvrables, dit le chef, venez donc vous faire guérir ces jours-là. L'homme à la main sèche n'a rien demandé, lui non plus. C'est Jésus qui lui intime l'ordre de se lever et de venir se placer devant tout le monde. Alors il provoque de manière surprenante, il faut le reconnaître, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? L'homme n'est pas en danger. Lui faire du bien peut attendre le lendemain, mais surtout, pourquoi parler de tuer? Personne ne répond, il n'y a donc pas de discussion. Mais devant ce véritable séisme, Marc dit que Jésus promène sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Et donc, tous ceux que l'hypocrisie et la dureté mettent en colère seront tout à fait évangéliques. Jésus guérit. Il guérit l'homme et les autres sortent et tiennent conseil pour le perdre.
Radio Grand Ciel.
Le jour du sabbat. Hein. Guérir le jour du sabbat. Jésus avait vu juste. Ils sont venus le jour du sabbat avec l'intention de tuer. Et c'est pourquoi Jésus demandait s'il était permis de tuer le jour du sabbat. Il a dévoilé leur manière de profaner le sabbat. Pourtant, ils demeureront dans leur endurcissement. Le retour à Nazareth dans Luc 4, 16, Luc place cet épisode tout au début du ministère de Jésus, ce qui le conduit à des anachronismes flagrants lorsque Jésus s'attend à ce qu'on lui demande de faire à Nazareth ce qu'il a fait à Capharnaüm, où il n'est pas encore allé. Mais Luc a voulu faire de ce récit l'annonce de toute la suite. Jésus se rend donc là aussi à la synagogue, où il se lève lui-même pour faire la lecture de la prophétie d'Isaïe, qu'il commente d'une phrase en se l'appliquant à lui-même. Il a été consacré par l'Esprit pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Suivent alors deux réactions opposées. D'abord, tous lui rendaient témoignage, étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais aussitôt après, ils disent « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Ce qui sous-entend « Mais comment ces paroles de grâce peuvent-elles venir de celui-là que tout le monde connaît bien ici ?» Alors Jésus les provoque clairement. « À coup sûr, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » Qu'ils se guérissent de quoi? De l'imposture pour un homme trop bien connu de s'attribuer la mission annoncée par le prophète. Alors Jésus cite Élie et Élisée, envoyés à des païens pour leur déclarer qu'un prophète n'est jamais reconnu dans sa propre patrie. Le résultat est qu'ils deviennent furieux et l'emmènent sur une hauteur pour le précipiter en bas. C'est donc le même dessein de le tuer qu'à la synagogue de Capharnaüm. Le lien est évident avec le livre des Actes. Paul se rendra toujours d'abord dans les synagogues et à chaque fois, il suscitera le conflit et la volonté de supprimer. Luc veut donc bien montrer que Jésus provoque d'emblée l'opposition et qu'il se défend, qu'il contre-attaque et qu'il avance quand même résolument. Il n'ose user ni de diplomatie, ni de douce persuasion. C'est un battant. Oui, Jésus est un battant qui s'affirme et s'oppose. Les controverses jalonnent ensuite tous les récits évangéliques. La disputatio est une grande tradition rabbinique. Elle consiste à échanger des interprétations différentes du texte biblique. Elles sont souvent sans fin et sans véritable conclusion. Et le Moyen-Âge chrétien reprendra cette tradition avec ses questiones disputationes, faisant œuvre d'un grand art pour mettre en débat des opinions contradictoires. L'enseignement se faisait de cette manière, on apprenait à débattre, et donc le débat était ouvert, la controverse légitime. Jésus est entré dans ces controverses, mais lorsqu'il a été directement confronté aux autorités doctrinales, les débats sont vite devenus dramatiques à cause de l'opposition des docteurs que les évangiles présentent dès le début, décidés à le condamner. Alors Jésus échappe au piège, mais plus il s'en tire et plus on veut le perdre. Les évangiles dessinent un beau visage humain du Christ, un homme jeune, incisif, vigoureux, exigeant, déroutant, capable aussi bien de compassion que dureté, accueillant et intransigeant, se battant jusqu'à la mort. Le Christ avec Madeleine, avec la veuve de Naïm, avec Zachée, le Christ avec les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, le Christ en colère et le Christ victime. Aimons ces visages contrastés de Jésus. Évitons de le simplifier, de le réduire au gré des idéologies. Le regard du Christ nous juge au cœur et le Dieu qu'il révèle est miséricordieux, mais non débonnaire. Il est exigeant, il est foyer de feu. Les disciples du Christ sont appelés, eux aussi, à la compassion et à l'exigence. Et ces deux appels ne sont pas aisés à conjuguer. Il leur faut d'abord faire la vérité en eux-mêmes. L'Église a reçu tout au long des siècles des prophètes de la charité et des défenseurs du droit et de la justice. Elle doit être à la fois un lieu de miséricorde, de bienveillance et un lieu de débat et de mise en question. Il nous incombe alors de toujours discerner le cœur du royaume. La justice, la miséricorde et la fidélité, nous souvenant que le débat et le combat commencent en nous-mêmes. Alors oui, il est légitime que l'Église soit un lieu de débat, ce qui manque beaucoup aujourd'hui d'ailleurs.